C'est l'Artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art. L'émission que vous retrouvez sur le 101.7. C'est deux rendez-vous par mois.
Pourquoi c'est connu ?
Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission l'Artichaut, où une artiste un peu folle vient parler des tableaux qui ont fait l'actualité du 19e et du 20e siècle avec Malo.
Hey, hey. Hey, hey. Bonjour à vous, chers auditeurs, chères auditrices du 101.7. C'est la nouvelle émission, le nouvel épisode d'Artichaut avec Carotte, où on parle des œuvres du 19e siècle en s'interrogeant un peu sur pourquoi c'est connu et puis en découvrant en détail la personnalité de l'artiste grâce à toi et ta passion pour la peinture. Et un peu, bah voilà, toutes les émotions qui se dégagent et tous les messages qu'on peut retrouver dans les œuvres. Aujourd'hui, c'est connu parce que c'est un plaisir simple. On parle ici d'une grande toile, 1m31 sur 1m76, réalisée par l'artiste Auguste Renoir, le bal du moulin de la galette.
Merveilleux, c'est merveilleux. J'adore.
Une grande toile pour figurer le soleil, la bonne humeur, les sourires, les mouvements de danse. C'est une œuvre vivante. Et ça a le goût d'été, tout ça. Alors peut-être que les auditeurs, auditrices qui nous écoutent sont en vacances. Alors on pourrait les plonger dans ce cadre en parlant de cette œuvre d'Auguste Renoir.
Bah, si on veut parler du Diwa en même temps qu'Auguste Renoir, on va parler de la guerre des guinguettes. Hein, parce que donc, pendant ce temps-là, les impressionnistes, eux, ils se livrent une vraie guerre des guinguettes en voyant qui va réaliser la plus belle scène impressionniste d'extérieur. Et donc là, Auguste nous a servi un tableau magistral, ben, de par sa taille, parce qu'effectivement, c'est un des plus, peut-être la première plus grande œuvre faite d'un extérieur. C'est une scène de guinguette au Moulin de la Galette. Donc, c'est un dimanche. Tout le monde est très, très joliment habillé. Et comme tout bon impressionniste, eh ben, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas vraiment de perspective. Tout est réalisé à base de petites touches de peinture colorées avec des ombres colorées. Au premier plan, une petite fille câlinée par sa maman avec des buveurs de sirop ou de bière en canotier. Et puis derrière, une salle de bal qui n'en finit pas. Parce que si on essayait de les compter, on ne saurait pas. Ils sont 100, 300, 1000. C'est vibrant de soleil et de feuillage vrombissant parce que c'est rendu par des petites touches de jaune qui est collé avec du bleu ciel. Et ça, il y en a partout sur les robes, les visages, etc. Ce qui donne un côté à la fois gai, charmant, estival, effectivement. Et presque, on entendrait la musique. Franchement, oui, grâce à cette toile, Auguste Renoir a bien mérité son surnom de peintre du bonheur. On comprend toute l'expression de cette joie de vivre des dimanches sans travail. Donc, c'est une scène populaire hein, parce que le quartier de Montmartre était habillé par... Enfin, les gens de la butte étaient des gens de classe très, très, très moyenne, voire un peu pauvre. Mais là, ils se sont mis sur leur 31 pour aller valser et danser ensemble.
Les endimanchés.
Les endimanchés, ouais. Et c'est vraiment un régal pour l'œil.
Ouais, c'est une société déjà très élégante qui est représentée là. Et pour rebondir sur le fait que c'est très agréable pour l'œil, je découvre de plus en plus un peu en fait la peinture et le talent de beaucoup d'artistes que je ne connaissais pas grâce à toi et grâce à cette émission. Et on en parlait dans l'autre émission de la photo qui apparaît un petit peu à cette époque-là.
Ouais, bah oui.
Et c'est vrai que en fait quand je regarde cette toile, je trouve que c'est impressionnant le magnifique détail qu'il a su réaliser, ou quand moi je la regarde, je pourrais presque croire en fait que c'est une photographie et non pas quelque chose qui a été réalisé par la main d'un homme, quoi. C'est quand même assez impressionnant.
Ben, le cœur d'un homme, enfin, donc l'artiste, hein, c'est le doigt, le cœur et la tête. Donc on peut remercier Auguste Renoir pour tout le bonheur qu'il a su mettre dans sa peinture, et il devait être vraiment charmant et bon vivant. Et en plus, comme il n'a pas eu de succès de son temps, il a toujours pensé qu'il était mauvais. Et du coup, il n'a pas arrêté de s'améliorer et de chercher dans toutes les directions. Parce que comme les autres qui ne vendaient pas, il s'est dit, voilà, il faut que je continue d'explorer ce monde. Alors, il avait fait des études quand même à l'École des Beaux-Arts de Paris. Donc, il a reçu une formation picturale plus qu'académique. Et il avait ses maîtres comme... Fragonard, les petits anges et les peaux bien, bien faites et bien voluptueuses des femmes. Mais comme Manet, il a dû subir les affreux de la critique. Et d'ailleurs, j'ai noté quelques affreuses critiques faites à son endroit à son époque, donc en 76. Alors, dans le Figaro, Albert Wolff écrivait « Essayez donc d'expliquer à M. Renoir que le torse d'une femme n'est pas un amas de chair en décomposition avec des taches vertes violacées qui dénotent l'état de complète putréfaction dans un cadavre. » Et donc, la même année... il y a l'artiste Bertal, donc en plus c'est un artiste critique qui donc note dans le Soir, dans des cadres bizarres, des contournements grotesques, des fracas de couleurs sans forme et sans harmonie, sans perspective et sans dessin. Donc faut vraiment être gonflé pour dire ça, ou faut vraiment avoir besoin de lunettes, hein, je crois. Bien que donc, comme toute œuvre impressionniste, elle se regarde d'un petit peu loin, parce que étant donné que rien n'est défini, le procédé c'est vraiment par petites touches. Il n'y a pas de noir, donc toutes les ombres sont colorées. Il n'hésite pas à donc balancer ses petites taches de soleil colorées sur les peaux, les corps, les chapeaux, les éléments de décor et surtout le sol. Après ce type d'œuvre donc, où il est vraiment bien intégré dans le mouvement des impressionnistes, il va revenir à une peinture plus classique, avec des nus plus classiques, puis il va ressortir pour aller faire des blanchisseuses et des blanchisseuses et des blanchisseuses. Et après, il va encore revenir en atelier. Bon, il va faire aussi de la gravure, il va faire de la lithographie, il va essayer tout un tas de trucs Renoir au niveau de la technique. Je crois que c'est un de ceux qui en savait le plus de son temps. Et donc, il a fait le bonheur de ses contemporains. Il a été copain un peu avec tout le monde. Et puis, bon, quand il est revenu à sa période plus classique, les copains l'ont accusé de revenir un peu à petit bourgeois et retourner au code officiel. Mais en fait, c'était pour mieux truander et repartir après. Et donc, il disait, parce qu'il est mort vieux, donc il a eu le temps de faire beaucoup de femmes nues. Et il disait... n'importe quel cul crotté fera bien mon affaire, et que c'était qu'après des années et des années et des années de pratique qu'on maîtrisait une courbe parfaite et que tout se simplifiait au niveau de la réalisation. Mais on voit chez lui un plaisir gourmand, goulu dans la création de, oui, cette idée que les gens sont là, que c'est presque comme du cinéma, que ça va s'animer, qu'on entend la musique, le flonflon, le flon, l'accordéon, enfin c'est...
Et on peut très facilement se plonger dans l'ambiance qu'il a voulu retranscrire et reconstituer.
Ben d'autant vu la taille du truc, enfin là je veux dire, on se plonge dans la scène quoi. Parce que là, ça fait 2 mètres carrés, donc 1,31 m sur 1,76 m de long. Donc franchement, quand tu es devant, tu es aussi grand que les premiers personnages, quoi. Donc c'est...
mission chef-d'œuvre.
Presque, ouais, mission chef-d'œuvre, ouais. Et puis en plus, personne ne lui avait demandé, parce que voilà, personne, il s'auto-sollicitait et encourageait tout seul. Voilà, et sinon il y a un truc, une citation qu'il a dite et qui m'a beaucoup touchée, parce que elle dit l'essentiel de la peinture, c'est que il y a quelque chose dans la peinture de plus qui ne s'explique pas mais qui est essentiel. Voilà, donc c'est essentiel. La peinture est essentielle. Et d'autant que maintenant dans le monde hyper
moderne,
confortable, moderne, numérisé et avachi dans lequel on vit, et eh ben moi tu vois Malo, je trouve que dans la peinture les jeunes artistes d'aujourd'hui ou même les plus anciens comme moi, et eh ben on a gardé cette spontanéité. Finalement aujourd'hui la peinture c'est l'art le plus spontané qui soit, et que il y a encore dans cet art quelque chose à aller chercher, c'est sans fin. Et on pourra, tant qu'il y aura des peintres, des gens qui joueront avec les vibrations de la couleur et qui ne se laisseront pas impressionner par les critiques, on peut avoir une forme de pureté, des œuvres pures, des choses qui sortent du cœur Et moi, c'est ça qui me touche. C'est pour ça que
des œuvres qui marquent, parce que du coup, elle a eu une renommée aussi mondiale, bah, celle-ci. Oui.
Bah pareil, mais bon, voilà, il faut le temps. Pendant 20 ans, Renoir, pendant 20 ans, il a travaillé sans avoir un client. Bon, après, il y avait Caillebotte qui lui avait acheté cette œuvre. Il a été acheté par des artistes qui avaient vendu des œuvres. Et puis,
c'est presque
quelques collectionneurs.
La malédiction de tous les artistes peintres, presque. De tous ceux qu'on a vus, ils ont quand même eu un succès, soit après leur mort, soit quand même longtemps après. Et pourtant, aujourd'hui, on en parle comme... des œuvres qui ont marqué l'histoire. Comment tu pourrais expliquer ça ?
Ben déjà, parce que plus personne ne peint comme ça. Donc, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a une perte du savoir. C'est-à-dire, une fois que ça existe et que c'est affiché dans un musée, les gens s'amusent à refaire des reproductions chez eux, mais plus personne ne va peindre, ne va peindre comme ça. Donc, au moment où c'est connu et reconnu, ça s'annule, c'est-à-dire voilà, on a ça et maintenant il faut qu'on avance vers autre chose. Donc la peinture n'a pas arrêté d'avancer vers autre chose. Là, c'est vrai que maintenant il faut faire des retours au classicisme pour retrouver une part l'art de la beauté, c'est-à-dire qu'est-ce qui caractérise la beauté, en quoi quelque chose est beau et quelque chose est moche. Parce que là, on dit oui, à chacun son sale goût, à chacun son sale goût. Non, il y a du beau. L'esthétique est dans tout. Le tout, c'est qu'il faut apprendre à l'œil à le reconnaître comme étant quelque chose de beau. Donc pour ça, il faut éclaircir son œil, habituer son œil, et puis il faut aller régulièrement se plonger dans des œuvres belles. De la poésie, comme on a fait, tu vois, tout à l'heure, je vous ai fait la petite poésie d'Édouard Manet. J'ai pas de poésie sur Auguste Renoir, mais sûrement que quelqu'un lui a écrit une ode, c'est pas possible, sinon je vais la faire moi-même.
Il y a Georges Rivière qui a écrit que c'est une page d'histoire, un monument précieux de la vie parisienne d'une exactitude rigoureuse.
Ben, c'est fabuleux parce que ça donne envie d'y être. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment la nostalgie de cette époque. Et pourquoi pas au niveau politique, hein, parce que ça devait être vraiment épouvantable. Mais par contre, au niveau de l'élégance, de la beauté, de la chatoyance. Voilà, les gens savaient s'habiller bien le dimanche, tout était beau, les habits étaient beaux, les paniers étaient beaux. Et quelque part, cette vie où on attend encore un petit peu l'électricité, qui va pas tarder à arriver et qui va, elle aussi, dans son genre, tout révolutionner. Hein. On a eu l'éclairage à la bougie qui faisait des portraits clair-obscurs avec pas d'arrière-plan. On a le dehors, on a l'éclairage au gaz, comme on voit dans les peintures de Vincent Van Gogh. Et puis, on va avoir l'électricité qui vont permettre une autre forme de champ pictural et de cadrage, puisque bientôt, on va avoir éclairé le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan, et ainsi de suite. Et là, on fera un petit artichaut sur Toulouse-Lautrec. Donc Renoir existant, c'est fait. Donc quand même, il y a la guerre des guinguettes, parce que dans les impressionnismes, eh ben, toute cette vie parisienne là, de ces années-là, qui est tellement belle à peindre. Enfin franchement, oui, j'en veux, j'en peins. Chacun va faire son petit top 50 avec ses copains de celui qui a réalisé la plus chouette guinguette et la plus joyeuse avec le soleil le plus merveilleux et les lumières les plus vraies. Et puis, on va passer à autre chose. Et du coup, grande prochaine révolution. Donc, après la photo et le tube de peinture, ça va être l'électricité. Et puis après, on va rentrer dans la peinture dite contemporaine. Où donc là, on abandonne justement, on doit casser les codes et on doit inventer un nouveau type de langage qui va aller avec l'industrialisation et le reste. Alors c'est vrai que dans toute cette petite épopée qui dure finalement pas très longtemps, on a perdu cette élégance. On s'est avachi dans des salles de classe, on s'est mal fringué et maintenant, comme tu le faisais remarquer, le dimanche, on se prépare pas pour...
Survêt, t-shirt, voilà. Télé, terminé.
C'est devenu grunge. Donc du coup, effectivement, le monde du quotidien ne nous aide plus à
apprécier le beau.
Donc du coup, il faut repartir à la quête du beau et remettre tous les jours du beau dans sa vie. C'est, vous choisissez ce que vous voulez, ça peut être même la salade du soir.
Moi, je veux une robe de cette époque-là, de ce genre d'année, les belles robes des dames.
Ah ben oui, non mais on va s'en coudre une. Moi déjà, de toute façon, j'ai ma robe de princesse et ma robe de redingote, mais je vais te la prêter. Si ça se trouve, en plus, je ne rentre plus dedans. Bon, elle est très graphique, la mienne. Elle n'est pas aussi jolie. Parce que bien sûr, le choix des motifs, tous ces canotiers, ces fleurs dans les cheveux. Enfin, voilà, c'est ravissant. Et c'est vrai que ça, c'est un peu un paradis perdu. Ça nous donne une forme de nostalgie sur comment pourrait être la vie et comment elle a été et finalement
ce qu'on a perdu
en chemin. Alors on a gagné beaucoup, mais voilà. Mais après c'est pas grave parce que c'est toujours là, c'est jamais loin. Faut aller voir les expos, faut aller au Mardi en Barnavie, faut aller dans les musées, faut regarder avec votre ordinateur, faire des visites dans les beaux musées du monde et faut se replonger dans ces fenêtres. Ouais, la couleur, la vibration, les tonalités, les intensités. Tout ça c'est du bonheur, c'est du bonheur qu'on peut s'offrir à pas cher. La peinture et le monde de l'art, c'est disponible maintenant pour tous et ça peut valoir des milliards de francs, on s'en fout, parce que voilà, même cette petite image dans ton bouquin là, tu vois, on se concentre dessus et hop, on y est quoi. C'est
ouais,
comme une machine
ouais.
À voyager dans le temps.
Bah c'est ça, c'est une machine à voyager dans le temps, ça nous rappelle comment c'était ou ça nous fait découvrir aussi comment ça pouvait être un ancien temps. Et puis là on parlait de la peinture et t'as évoqué l'art aussi et je trouve que l'art c'est vraiment l'outil qui peut nous permettre de nous ramener à l'essentiel, de réapprendre que les choses, enfin, dans les mots ou dans les peintures ou aujourd'hui un peu dans la photographie, il y a des photographes qui sont très doués et qui arrivent à vraiment apporter une émotion dans leurs photos, enfin, et c'est ça qu'il faut faire renaître en nous aussi, l'envie du beau, l'envie de ressentir, de découvrir, d'être animé par quelque chose.
Besoin d'un gros bol d'air frais ? Te sentir en haut de l'Himalaya ? Écoute Erdiwa.
Mais en tout cas, il faut mettre de la lumière, de la couleur, de la musique dans sa vie tous les jours un petit peu et l'écouter, c'est-à-dire pas mettre juste un fond sonore, mais prendre le temps d'apprécier les choses et de se demander aussi pourquoi elles nous touchent, pourquoi on les apprécie, parce que c'est un jeu de miroir. En fait, l'art, c'est un miroir de soi, puisque c'est fait par la main humaine qui cherche à atteindre une élévation et un langage. Donc, c'est le langage par la forme et la couleur. Donc, c'est accessible. C'est pour nos sens à nous, quoi. Je veux dire, c'est fait par des humains pour des humains. Et c'est un peu dommage ce désintérêt qu'ont les gens à cette forme d'art en se disant que peut-être c'est la télé ou le cinéma qui a remplacé la peinture. Ben alors non, hein, parce que moi je peux vous le dire, j'ai fait du cinéma aussi, j'adore le cinéma. Et non, ce qui me touche avec la peinture me touche vraiment le cœur en profondeur. C'est des émotions fortes, plus intenses, parce que justement, un petit bonhomme de 78 piges avec les doigts cagneux et presque aveugle a réussi à retranscrire cette femme nue qui fait envie. Donc c'est très fort. C'est comme un aveugle qui fait du jazz ou enfin je sais pas, mais il y a quelque chose presque de sublime là-dedans. En fait, c'est l'humain qui est sublimé, qui est au meilleur de ce qu'il peut apporter. Et je trouve que dans notre société, il faut essayer d'être le meilleur dans ce qu'on essaye d'amener et continuer à apprendre, parce que la vie, c'est un territoire d'exploration et d'aventure. On n'en a jamais fini avec la vie. Et quand on fait de l'art, on n'en a jamais fini avec l'art. Et puis après, il y a l'art de vivre, c'est-à-dire déjà être sensible au beau. L'art est un moyen d'y arriver. Et puis après, le prendre pour soi, c'est-à-dire le mettre dans sa vie et commencer à se poser des questions intéressantes et essentielles sur nos besoins, comment je suis bien, comment je suis beau, comment je suis élégant, comment je me sens bien dans mon corps, plutôt que d'avoir mal au dos et mal au cul, comme Courbet, qui lui avait surtout mal au cul. Mais... ben voilà, c'est-à-dire si vous savez plus, comme les gens qui nous disent « Ah, mais je sais pas, moi j'y connais rien à l'art, je sais pas faire la différence entre ça et ça. » Mais bien sûr que si, bien sûr, laisse parler ton cœur, mais pour ça, faut prendre un peu de temps. C'est le manque de temps qui nous empêche de faire du piano, des claquettes ou de la peinture. C'est le manque de temps qui nous empêche d'aller dans un musée. C'est le manque de temps qui nous empêche d'aller dans ce même musée pour ne voir qu'une œuvre et rester assis devant pendant une heure et là de la comprendre. Si tu veux parler avec le chêne, il faut que tu dormes au pied du chêne, que tu boives le jus du chêne, que tu manges les feuilles du chêne et là, il va t'offrir son langage. Donc, il y a quand même un travail à faire, mais c'est un travail qu'on fait de soi à soi pour soi. Les filles vont bien chez le coiffeur ou elles se maquillent. Enfin, je veux dire, si je te parle à toi comme fille, tu sauras me dire, ben aujourd'hui, je suis plutôt moche et aujourd'hui, je me sens plutôt jolie. Bon, donc on sait intrinsèquement le beau c'est du moche, clair. Quoi. Je veux dire, faut arrêter avec ça. Oui. Mais amener de la joie, enfin les couleurs et l'art, il est là pour se mettre en joie, en bonheur, en meilleure forme, quoi. Faire réfléchir, inspirer, l'inspiration. Donc c'est on inspire quoi, on prend de l'extérieur pour en faire
pour se nourrir de l'intérieur.
Pour se nourrir de l'intérieur et faut que chaque minute de la vie amène quelque chose d'un peu dense, sinon ça sert à rien quoi. Et du coup ben voilà, j'ai toujours plaisir à parler peinture et puis c'est vrai que bon ben Renoir, étant donné qu'il a vécu très longtemps par rapport à pas mal d'impressionnistes de son époque, parce qu'ils ont eu quand même pas mal de guerres et de soucis pendant cette époque là et tous ils sont partis un peu à l'armée, il y a eu peu de planqués chez les artistes et ceux qui se sont planqués pendant la commune et puis après bon il va y avoir les autres, ceux de la guerre de 14. Ils ont morflé doublement que tout le monde parce que souvent ils étaient issus de milieux relativement aisés mais en fait ils n'ont pas réussi à bien se nourrir pendant leur existence. Donc ça c'est triste aussi. C'est vrai que de se dire d'être en avance sur son temps, tu vois c'est une malédiction. Ben non, faut surtout pas dire ça. Faut dire non, c'est génial d'être en avance sur son temps, c'est une bénédiction. Et après, c'est pas grave d'être incompris. Tant que toi, tu sais ce que tu fais et où tu vas, c'est bon. Et ça apprend aussi justement à ne pas se faire influencer par des regards critiques et moqueurs. Là, c'est vrai qu'avec Manet et Renoir, on voit qu'ils s'en sont pris plein les dents. D'une manière en plus super crue, parce que. Et en plus, il ne pouvait pas se retourner en justice, tu sais, faire des attaques en justice comme tu fais aujourd'hui. Ouais, il a mal parlé de moi dans son journal, attends, je l'attaque et je vais lui sortir 100 000 balles. Non, là, les gars, ils prenaient le torchon du journal et puis ils se torchaient avec ou ils pleuraient dedans, mais bon, ben voilà, puis il fallait tout recommencer, quoi. Vous laissez pas impressionner, soyez comme les impressionnistes, ne vous laissez pas impressionner. Et. Ouais. Et puis après, ça amène à d'autres choses, c'est-à-dire la simplicité de sa vie. Parce que finalement, quand tu commences à avoir la nostalgie des années 1880, d'avant la grosse phase d'industrialisation, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans le Diwa et tu prends 2-3 brebis, un bus et puis tu fais aussi de l'autosuffisance. Parce que l'art va apprendre justement à ce que tu disais, comment on arrive à l'essentiel. Et finalement, après, on va aller dans l'abstraction, on va aller dans les formes, on va aller dans des choses beaucoup plus simplifiées, en même temps que la société, elle va se complexifier. Et donc après, là, on va avoir vraiment un chemin de la modernité et de la technologie de la vie avec un chemin de l'abstraction et jusqu'à arriver au bleu clin avec des monochromes et des trucs comme ça. Donc là, on est vraiment dans la dernière époque de la peinture humaniste. Parce qu'avant, elle était trop formatée par le savoir technique. Donc les mecs, ils étaient pris dans leur technique et dans leur mécène. Et là, pendant une petite période d'environ 30 ou 40 ans, il va y avoir une vraie expression artistique fraîche, pure, saine. Les gens vont se laisser aller, quoi. Ils vont lâcher leurs pinceaux et ça va être la fête de la peinture, quoi. Puis après, ça va se rescléroser.
Vous êtes bien sur Radio Diwa.
Une œuvre qui, du coup, a fini au musée du Luxembourg en 1896, ce qui lui assure sa renommée. Aussi.
Oui, ben, je pense qu'il y a surtout le fait que ben, Renoir il a été super imprimé, copié, tout ça. Il y avait des calendriers, des postes, des boîtes à chocolat,
okay, ouais.
Tu vois, où il y avait du Renoir dessus. Du coup, il est passé dans la culture populaire. Et donc, du coup, il a aussi, une fois qu'il a été mis dans la culture populaire, les snobs, ils ont dit, ah ouais, peinture petit bourgeois, un peu cucu, un peu bon enfant, un peu mou, souple, quoi. Mais non, pas du tout. Regardez comment... la lumière est mise. Enfin, non, non, non.
Mais aujourd'hui, je pense que c'est une œuvre qui est vraiment regardée de manière comme un chef-d'œuvre, quoi, de l'impressionnisme justement.
Bah oui, non, mais c'en est un. Moi, je dirais plutôt voilà, spontanéisme, naturalisme. Joie de vivre, parce qu'en fait, impressionnisme, c'est pas eux qui s'appelaient comme ça. C'est à cause du tableau donc de Monet, impression sur le Grand Canal, là, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, impression sur le Grand Canal, où là, d'un coup, on a dit impression. Donc, c'est même lui qui l'a dit, une impression. Mais ça faisait déjà pas mal de temps que l'impression, on l'avait. Hein. Et du coup, non, ils s'appelaient plutôt les indépendants, les républicains, les spontanés, les révoltés, les révolutionnaires, enfin tout ce que vous voulez, mais impressionniste. En plus, impressionniste, ça n'explique rien, ça dit rien. J'aime pas trop les noms qui sont donnés au courant de peinture. Faut les dire, parce que, ben voilà, c'est officiel.
Justement, j'allais te dire, est-ce qu'on pourrait pas faire, pas forcément dans cet épisode-là, mais un jour un épisode avec quand même ces noms de courant, et pour que les auditeurs comme moi, par exemple, je ne sais pas la différence entre l'impressionnisme, le naturalisme, tous ces mouvements-là, là. Et du coup, je me disais que ça pouvait être cool que tu nous les expliques et nous expliquer aussi pourquoi, selon toi, c'est pas forcément bon de coller des noms
des
sur
étiquettes. Bah non, non,
étiquettes, ouais, sur des mouvements.
Non, non, mais en plus, dans la mesure où les groupes eux-mêmes d'artistes ne s'appellent pas de cette façon, pourquoi est-ce qu'on les appelle d'une autre façon ? Enfin, je sais pas, il y a aussi un truc de dire respect. Enfin, voilà, si le nom de... Enfin, il faut reprendre tout par le début, parce que de toute façon, c'est beaucoup trop formaté. Quand on parle d'art, il n'y a pas de formatage. Ou tu ressens un truc, ou tu ressens rien, ou tu sens bien qu'il y a un truc qu'il faut, donc tu prends un peu plus de temps. Mais voilà, ça ne se met pas en mots, en lettres, en films. C'est du ressenti. C'est du ressenti émotionnel humain. Voilà, point barre. Ça ne s'explique pas. Et comme il le dit très bien, Auguste Renoir, voilà, ça ne s'explique pas, mais c'est essentiel. Et quelque part, on a perdu ce goût de l'essentiel. Et je trouve que c'est vraiment bien de s'y replonger parce que ça reste simple. Enfin voilà, c'est pas compliqué d'avoir un beau bouquin d'art ou d'aller emprunter un beau bouquin d'art dans une médiathèque et puis de le mettre sur sa table de nuit. Puis le soir, avant de se coucher, tu regardes 2-3 tableaux de peinture. Puis tu te dis, waouh, la vache, mais comment il a fait ça, c'est beau. Puis tu t'endors à regarder ça plutôt qu'une pauvre série Netflix, quoi. Non, mais parce que franchement, il y a aussi un peu la politique du... j'ai pas envie de me cultiver, c'est trop compliqué, j'ai pas de connaissances en art. De toute façon, je vais pas vous enchanter en vous disant ce qu'on dit dans les bouquins d'art. Je vais vous enchanter en vous parlant de moi, ma passion pour la peinture. Et c'est du ressenti. Chez les impressionnistes, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. Par exemple, on fait tout un foin de Claude Monet. Donc déjà, on confond souvent Manet et Monet à cause de cette voyelle. Manet, il passe pour un irrévérencieux. Tout le monde adore le travail que je trouve mou et sirupeux de Claude Monet. Mis à part à la fin de sa vie, c'est Nénuphar que je trouve... je suis sans voix. Et j'ai encore été regardée de plus près parce que maintenant, tu peux zoomer. Donc, tu peux voir de très près presque les coups de pinceau sans aller au musée. Et ça, moi, ça m'éclate, en fait. Et mais voilà, donc Claude Monet, il a eu plein de notoriété, puis on a pris le nom qu'il a donné, alors que c'est pas lui le vrai chef de guerre du mouvement impressionniste. Je préférerais qu'on prenne carrément Auguste Renoir, mais comme il a fait le catalogue des postes, franchement, moi j'aime pas quand on cloisonne l'art. Non, on doit pas. Après, c'est vrai qu'on va, à partir du milieu de notre siècle, moi après, l'art contemporain, je le range dans la grosse poubelle art contemporain. Et je m'arrête à genre Marcel Duchamp et puis après, je ne comprends plus rien. Et là, si je vais dans un musée, comme j'ai été voir le musée Maaigle la dernière fois, dans la salle qu'il y avait en bas, là, j'ai rien compris. J'ai vu des guitares électriques en inclusion dans du plastique. Ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre, quoi. J'ai pas bien compris. J'ai compris qu'il y avait une ode au rock'n'roll et un hommage au rock'n'roll et la guitare électrique. Mais d'un point de vue artistique, voilà, ça ne m'a pas du tout ému. Et quand je vois les autres trucs, les babars géants de 6 mètres, mais ça me laisse pantoise. Et limite, très sceptique. Je me dis, mais comment on a fait pour en arriver là ? Moi, j'ai encore dans la tête voilà, les tableaux des Pissarro et des Cézanne. Et je me dis, oh là 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 là, comment ils ont fait ? Et puis d'un coup, on me sert un babar géant. Alors là, tu sais, Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible, on vit pas dans le même univers.
Avant, on se demandait comment ils faisaient pour être aussi bons, et maintenant, on se demande comment ils font pour être aussi mauvais.
Bah, aussi mauvais, et puis aussi encensé.
Peu inspiré.
Bah, c'est ça, peu inspiré, voler les idées des autres, les faire en géant, voilà, c'est plus gros, alors c'est mieux. Bon, bah voilà, bon, bah, s'ils en sont toujours là, les pauvres gens, moi, je peux vraiment rien pour eux. Mais non, on a nos anciens, nos maîtres, et tout ça, justement, pour nous inspirer. Il y a aussi la littérature, il y a aussi la poésie. Tout ça, c'est aussi la même époque. Bon, ben, moi, je suis fan. Et après, ben, voilà, Baudelaire, Apollinaire, Verlaine. Je pensais à Serge Gainsbourg. On parlait d'Olympia. Bon, ben, la chanson de Serge Gainsbourg sur Brigitte Bardot, elle vient de ça, quoi. Du coup, finalement, dans notre monde contemporain qu'on aime bien, il y a des liens parce que les artistes de la musique, par exemple, ils aimaient bien la peinture et qu'ils ont fait des liens aussi entre la musique et la peinture. Bon, de moins en moins aujourd'hui, mais bon, c'est aussi pour ça que notre petite émission, elle existe, hein, pas vrai, Malo ?
Tout à fait.
Donc, vive l'artichaut ! Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour, on est bon là, ça a enregistré.
Bah ouais.
c'est super. Et ben, je vous invite à faire de la promotion pour cette émission autour de vous, à aller voir donc les reproductions qui sont données sur les ordis, aller voir plusieurs reproductions parce que vous allez voir aussi que les reproductions, bah, c'est pas toujours ça. Donc il y en a, c'est tout bleu, tout vert, tout jaune, tout rouge. Donc vous allez vite voir que la vraie peinture, ben il y a que en allant la voir dans le musée où elle est exposée que vous en aurez vraiment une vue réelle. Mais sinon, n'hésitez pas à utiliser l'outil informatique pour justement aller voir ce dont on a parlé et puis aller un peu plus loin, parce que c'est sans fin. Et puis il y en a plein aussi qu'on ne connaît pas. Parce que tu vois, des 6000 tableaux qu'il y avait au refusé, ben, combien de noms on va sortir ? 5 noms sur 6000 gars qui exposaient, qui étaient refusés par les officiels et qu'on ne connaîtra jamais. Mais moi, j'aimerais bien savoir qui c'est, ces 4498 gars.
Autant c'est les chefs-d'œuvre dans des prochaines années.
Bah ouais, ou alors ils les ont détruits, jetés dans les poubelles, je ne sais pas, mais j'espère que non. En tout cas, il y a beaucoup plus de monde en dessous du niveau de l'eau de l'iceberg que, bien sûr, la pointe qui sort et qu'on voit dans les musées publics. Donc du coup, il faut continuer à aller chercher dans les bouquins et dans les bouquins d'art. Ta chaîne est une bonne édition de bouquins d'art où j'ai pu constater que la reproduction, elle était assez proche de la réalité du tableau. Et puis, je vous invite surtout à pratiquer les couleurs, parce que la peinture, depuis 30 ans que j'en fais, j'en suis toujours pas lassée. Et pour les gens qui font de la peinture aussi comme moi, ben, c'est un éternel émerveillement, éternel recommencement. Et puis voilà, c'est pas un loisir très cher à pratiquer non plus, ça a quand même son petit prix, mais ça reste tout à fait abordable. Et une maison où il y a de la peinture, des pinceaux, des enfants, de la musique, et ben voilà, ça fait une maison beaucoup plus joyeuse. Et puis du coup, des intérêts pour des visites, aller en famille, visiter des choses et comparer vos états d'âme, vos états d'être devant un tableau du Louvre. N'envoyez pas 500, hein, c'est comme les parfums chez Sephora, t'en goûtes deux et puis c'est bon, quoi. Asseyez-vous comme une fenêtre ouverte sur des vacances, un paysage, et puis vous essayez d'en retirer tout ce que vous pouvez. Vous pouvez faire confiance aux musées et aux collections françaises, elles sont quand même très bien faites. Il y a aussi quand même beaucoup de reconnaissance à avoir pour les collections nationales et pour la façon dont ils les font tourner, dont ils les font bouger, dont ils les scénographient. Et que le fait que aussi le prix d'entrée des musées reste tout à fait abordable, quoi. Donc voilà, ne passez pas l'été que sur la plage, mais n'hésitez pas aussi à aller voir les musées qui sont pas loin de vos stations balnéaires, parce qu'il y a toujours un petit musée Mariol à aller voir. Il y a le musée de Suzy Solidor, qui est justement dans un coin genre Cannes-sur-Mer. Enfin, renseignez-vous là-dessus, parce qu'il fait toujours bon et frais dans les musées. Ça peut être aussi un bon moyen de lutter contre la canicule.
Clairement, j'ai failli le dire. Mais en tout cas, c'est tout un émerveillement aussi, tous ces épisodes, toutes ces connaissances et ces découvertes ou redécouvertes pour les auditeurs qui connaissent un petit peu les œuvres sur lesquelles on parle, quoi.
Oui, puis je rappelle quand même que je ne suis pas spécialiste, hein. Je n'ai moi-même aucune formation académique.
Mais
je
on le sait, mais c'est ça qui est encore plus sympa. Donc, c'est pour ça que tu fais partie de l'émission.
Ok, ben c'est gentil.
Je pense que si tu sortais d'un truc tout droit formaté, on ne s'entendrait pas aussi bien et on ne ferait pas une émission radio ensemble.
Oui, mais j'ai quand même des fois un peu peur de dire des bêtises des fois ou d'être à côté des dates et tout, mais enfin bon, vous m'excusez.
Mais les dates, on les a dans notre petit ouvrage.
Mais on n'a pas tout non plus. Ça reste aussi justement un peu spontané cette émission parce que je suis pas non plus au courant de tout, mais chaque émission amène son petit lot de recherche et de travail et je vais aussi moi-même m'améliorer.
Et puis je trouve que chaque émission amène son petit lot de discussions et d'échanges sur en plus des sujets qui diffèrent de là mais qui nous y ramènent à chaque fois. C'est ça aussi que je trouve très chouette dans cette émission. C'est qu'on ne reste pas non plus une demi-heure juste... Enfin, justement, c'est le rôle de l'art, mais ça nous emmène vers d'autres questionnements, d'autres... Comme tout à l'heure, on parlait du fait qu'ils étaient bien habillés ou que maintenant, les dimanches, on les passe comme ça. Enfin, ça nous fait réfléchir d'une autre manière aussi. Du coup, voilà. J'espère que les auditeurs apprécient autant le temps passé à nous écouter que ce que moi, je passe à découvrir tout ça.
Ah, mais c'est un plaisir. Et après aussi, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait aller voir ensemble une expo locale et se discuter de cette expo et d'inviter les gens à aller voir cette expo pas loin, là ou là.
C'est vrai
et
que ça pourrait être très
ça
chouette.
Ça pourrait aussi faire l'occasion d'un petit truc comme ça. Nous, on vous prépare le terrain et puis on peut parler ensemble des mêmes choses. Et c'est vrai que rien ne vaut un petit déplacement pour aller voir les œuvres en vrai. Donc en septembre, les mardis en Barnavie, ça sera fini. Mais il y a une très bonne activité artistique à Barnave. Et je vous invite à, je ne sais pas ce qu'on fera en septembre, mais en tout cas l'été prochain, je vous invite à venir profiter des artistes barnavois vivants, présents, vivants et joyeux qui sont là.
Est-ce que, comme dans l'épisode 3, on se finit avec un petit quiz pour clore l'épisode ?
Si tu veux, absolument, si tu veux.
Bon, allez, il y a 8 petites questions. Je rappelle pour les auditeurs qui ne l'ont pas écouté à une fois qu'elle a quasi fait un sans faute quoi, sur le dernier quiz. Elle a peut-être eu une erreur, mais voilà, c'est la preuve qu'elle s'y connaît, même si elle a l'impression et qu'elle a peur et qu'elle rappelle que voilà, ce n'est pas une pro, elle s'y connaît quand même. Alors, Carotte, si je te dis le prix Carpo, le prix Carpo, sa couronne, une carrière de sculpteur, un jeune danseur, une mise en scène d'opéra.
Bon, on veut dire un prix de sculpteur.
Jeune danseur.
Ah ben voilà.
On s'endormira moins bête ce soir. Arrangement en gris et noir numéro 1 représente la mère de l'artiste, la mort de l'artiste, l'humeur de l'artiste.
Je ne sais pas. L'humeur de l'artiste.
La mère.
Ah ben la
On s'y intéressera.
Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle œuvre non plus ça fait référence. Donc là, franchement, c'était
voilà,
au pifomètre.
Voilà, c'était pif, pif.
Mona Lisa, ah Whistler, non je ne connais pas, Mona Lisa victorienne, c'est un peintre anglais.
Whistler.
Ah ben oui, mais si je l'avais vu, j'aurais dit que c'était la mère de Ruth, puisque c'est sa mère, clairement. Pas de son humeur, ni sa mort, puisqu'il n'est pas mort, il ne peut pas être mort, puisqu'il l'a peint. Vas-y, next.
On l'a surnommée Gorille Femelle, la petite danseuse de Degas, Olympia de Manet, la faneuse de Bastien Lepage.
Ah ben c'est l'Olympia de Manet, le
Tout
gorille.
Tout à fait. Ouais, c'était l'épisode dernier que vous pouvez retrouver sur www.rdwa.fr, l'émission Artishow.
RDWA Radio, www.rdwa.fr.
Mais c'est vrai que c'est vraiment honteux, gorille femelle. Tu vois, on l'a même pas dit dans l'autre
c'est
émission.
C'est assez terrible.
Tellement c'est terrible.
Quel coup du sort a subi l'Angélus ? Angélus dont on en a parlé.
Celui-là, on en a parlé.
Il a été soit lacéré par un déséquilibré, soit le commanditaire n'est jamais venu le récupérer. Il sert à décorer des assiettes et des pots.
Ah ben ça, je ne sais pas. Il a été lacéré, on va dire qu'il a été lacéré.
Oui, il a été lacéré, on en a parlé.
On avait parlé des attentats dans le musée. Mais oui.
Et que justement, j'avais dit qu'il avait été lacéré par un déséquilibré et qu'après, tu as dit, si vous voulez, je peux parler des déséquilibrés.
C'est pour ça que je te dis que cette émission mène toujours sur des sujets.
Tu préviendras écouter nos épisodes. Hein. Il y a de quoi, hein. Il y a de quoi faire. On rigole bien.
Mais en tout cas, ils avaient dit aussi que l'Olympia de Manet, elle avait failli être lacérée. L'impératrice Eugénie lui a donné un méchant coup d'éventail en passant. Et ils avaient dit que si à ce salon des refusés, là où elle a fait le tollé, s'il n'y avait pas eu une protection du salon, la toile, elle aurait été abîmée, chamboulée, voire vraiment détruite. Allez, vas-y, une prochaine.
Alors, on parle d'une œuvre et je vais te demander qui est l'auteur, Le déjeuner sur l'herbe.
Ben, c'est Manet aussi, mais il y en a aussi eu un avant. Ben, Monet, il en a fait un, donc il l'avait appelé Le bain d'abord. Et je crois qu'en Monet, il a fait son déjeuner sur l'herbe. Manet, il a appelé le sien Le déjeuner sur l'herbe aussi.
Ouais, parce que justement, tu vois, dans les petites réponses que j'ai, il y a écrit que les trois.
Les trois quoi ?
Ben, que ce soit Claude Monet, Édouard Manet ou Paul Cézanne.
Ah ouais, Cézanne.
Et ben, c'est l'œuvre des trois, en fait.
Oui, ben, c'est parce qu'ils l'ont fait. Chacun, il a fait sa version. Et des fois, les tableaux ont changé de nom aussi, soit pour se faire des petits pieds de nez ou des rires. Enfin, voilà, c'est des petits jeux entre artistes qui se connaissent, ça.
Mm-hmm. En off de l'émission, avant qu'on commence à s'installer en studio, on a parlé aussi de l'artiste Rousseau. Je crois que tu m'as dit que tu ne connaissais pas non plus tant. Et la question, c'est sur lui, dommage. Le douanier Rousseau a été gendarme, facteur ou percepteur ?
Ben, il n'a pas été facteur parce que c'était... il était douanier, je pense qu'il s'appelle le douanier Rousseau parce qu'il devait être...
Il était percepteur.
Voilà. Ouais. Ben, je ne savais pas ça. J'adore aussi le douanier Rousseau qui lui arrive... un petit peu plus tard, qui va créer aussi, qui va faire un petit peu son show, son buzz aussi, d'une manière vraiment naïve et avec des très jolies juxtapositions de couleurs aussi. Puis l'histoire du douanier Rousseau, c'est qu'il voyageait avec ses cartes postales. Donc lui, il a vraiment pas bougé. Il a tout fait dans sa tête, avec des, comme dans Le Magnifique, tu sais, Bebel qui écrit des bouquins d'agents secrets en lisant les prospectus des villes, Rio de Janeiro et tout ça, mais en fait il est dans son boui-boui parisien avec sa machine à écrire. Et ben le douanier Rousseau c'est pareil, il est dans son petit atelier boui-boui là, dans sa cambrousse, et puis il a des cartes postales de la jungle, des pays d'Afrique, des villes, et il fait son délire pictural avec ça. C'est très émouvant, j'aime beaucoup le douanier Rousseau. Mais tu vois, par contre, il était percepteur, mais il était sympa quand même.
On est sur de la traduction, là. Nabi, ça te parle ?
Ouais, les Nabi, ben, pareil.
Ça signifie couleur en japonais, prophète en hébreu ou nabo au pluriel ?
Ben, je pense que ça veut dire couleur en japonais.
Prophète en hébreu.
Et ben voilà, ben, je ne savais pas. Ben,
Nabi. Toi, tu parlais de quel groupe ?
Ben, le groupe des Nabi qui apparaît aussi avec tous les petits groupes. Une fois que la peinture elle a été libérée, bon, ben, il va y avoir plein de types d'expressions qui vont ranger par genre d'expression. Et du coup, ben, voilà, l'éclatement des couleurs, les couleurs pures, les points. Il va y avoir pendant quelques années un peu d'exploration sur aussi des techniques visuelles. Par exemple, le pointillisme, c'est vraiment des impressions sur de la persistance rétinienne. Donc, des effets d'optique, en fait. Hein. Donc après, on va pouvoir travailler un peu la couleur autrement. Et les peintres, ils vont s'en donner à cœur joie pour tout essayer. En plus, tu as vu, ils ont les peintures en tube. Bon, ben maintenant, on peut les utiliser pures. Bon, ben voilà, du coup, le grand champ de l'exploration de la couleur, maintenant, il est rendu possible. On n'est plus obligé de juxtaposer les couleurs en contraire les unes à côté des autres. Enfin, voilà, maintenant, il faut essayer de la nouveauté, des nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment une belle époque libre et sans code.
Erdiwa, je t'aime. Oh oui, je t'aime.
Allez, la dernière pour la route, c'est la fin. Après, on clôture l'émission, le dernier épisode. Est-ce que Jacques-Émile Blanche, ça te parle ?
Émile Blanc ou Blanche ? Blanche.
Blanche.
Non.
Et l'œuvre Le Proust ? Le
Proust, c'est un portrait de
Jacques-Émile Blanche.
Oui, ben, je vois le portrait de Proust, je le vois bien.
Alors, la question, c'est est-ce qu'il porte une canne à pommeau bleu, des gants beurre frais ou un gardénia à la boutonnière?
Il a des gants en beurre frais.
Des gants en beurre frais. Un gardénia à la boutonnière.
Dommage. Mais je le connais, ce tableau. Ben d'ailleurs, vas-y, montre-le nous. Ouais.
Vous entendez les pages se tourner?
Bah après, c'est super parce que justement, par le biais des portraits, les peintres font comme amis, ils font les portraits de leurs amis. Alors comme ça, du coup, par les portraits, on peut savoir qui sont les amis de chacun et les groupes de copains qui posent. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là-dessus. Parce que donc en fait on a fait plein d'émissions parce qu'il y en a une, elle s'est pas enregistrée et là en fait je suis fatiguée,
on est fatiguée
parce que c'est quand même dense hein. Mais merci Malo et donc à vendredi prochain.
Tout à fait. Allez. Oui.
Je vous embrasse. Merci les auditeurs
de
l'Artichaut. À bientôt.
Vous êtes bien sur Radio Diwa.